Donc en français 357. Et en araméen, Shin Mem Zayin. Alors on avait vu donc le texte lui-même, c'est-à-dire les deux questions que Antoninus a demandé à poser à Rabbi, et c'est chaque fois la même chose. Il pose une question et Rabbi donne une réponse, Antoninus lui donne, le contredit, lui apporte une preuve que c'est pas comme lui Rabbi le disait, et Rabbi accepte la réponse de Antoninus, parce qu'en fait, elle correspond au verset. Et donc, la question qui nous était, sur laquelle on s'était quitté, c'était comment se fait-il que Rabbi lui-même n'ait pas donné la réponse que Antoninus a donnée, puisqu'elle est conforme au verset. Comment se fait-il que Rabbi ait donné une réponse qui ne correspond pas au verset? Pour ensuite se rallier à l'avis d'Antoninus, parce que ça correspond au verset. C'est un peu paradoxal de voir Rabbi répondre autrement. Il connaît parfaitement le verset, c'est pas que, après qu'Antoninus s'est dit, il allait regarder dans le Chumash pour savoir comment était le verset. C'est marqué après que pourquoi est-ce que je ne les frapperai plus? Parce que Yetzer leva Adam ra min ourav. Et donc, comme c'est justement le verset qui explique pourquoi la chronologie de l'installation du Yetzirah dans l'homme est comme elle est, comme Antoninus le disait, alors on amène ça, justement, c'est... Si tu veux, on peut va essayer de répondre en même temps à ta question. Cette idée que Rabbi n'en vienne au Passouk qu'après avoir essayé autre chose, en fait, avoir dit le contraire, en fait, ça correspond exactement à la façon dont Hachem a procédé, non? Hachem dit, je ne frapperai plus parce que Yetzer lève Adam Ramineu Rav. Il le savait bien que le Yetzer de l'homme, il était Ramineu Rav. Pourquoi il a envoyé le déluge? Et tout à coup, Hachem, lui aussi, il a regardé dans le passouk, comment c'est? Donc, en fait, ce que Rabbi fait, C'est la même chose que ce qu'Hachem a fait. C'est-à-dire de donner une autre réponse que celle que le pasouk donne, et puis ensuite de se corriger, d'accepter l'opinion d'Antoninus, parce qu'elle coïncide avec. Mais cette démarche de accepter parce que ça coïncide avec le verset, avec un verset qu'il connaissait bien au départ aussi, d'accord, ça veut dire que la première réponse qu'il donne, c'est en faisant comme si on ignorait le verset. Bon, alors maintenant, allons regarder ce qu'il nous est dit ici sur Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu a envoyé le déluge. Et à la fin, là, maintenant, on est au moment où les hommes sortent de l'arche. Alors, c'est le pasouk dit, « Vayomer Hachem el libo ». Hachem dit littéralement « vers son cœur ». Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'Hachem dit? Oui? Oui, je ne frapperai plus. Je ne frapperai plus le monde avec un déluge pareil. Pourquoi? Et il donne une raison. Ce n'est pas simplement une alliance, un recette d'Hachem. Je ne vous punirai plus. Mais je ne vous punirai plus parce que je sais bien que le Yetzera de l'homme, il est là depuis toujours, chez l'homme. Et par conséquent, enfin depuis toujours, depuis sa naissance. Et donc, à la limite, ça justifie qu'on ne frappe pas. Mais pourquoi il a frappé la première fois? Pourquoi il a envoyé le déluge la première fois? Est-ce que ça veut dire que Hachem, au départ, il prend l'homme comme si l'homme n'avait pas dit de Serara qu'il soit raminé au grave? C'est pas une nouveauté que les Tzahara de l'homme est raminé au rav. C'est pas quelque chose qui est apparu quand l'homme était dans l'arche. C'est quelque chose qui était à l'œuvre et qui a fait que l'homme s'est fourvoyé de la façon dont il s'est fourvoyé. Mais si ils n'ont pas conscience du mal, alors pourquoi on les punit? Alors maintenant, donc tu vas aller jusqu'au bout de ce que tu dis. Donc maintenant Hachem dit, je ne frapperai plus. Pourquoi je ne frapperai plus? Parce que maintenant c'est comme si l'homme était arrivé à la bar mitzvah. Maintenant il a un yetzeratov. Et donc son yetzerara, il a une autre dimension. C'est un yetzerara dont on est conscient qu'il est ra. Donc, si on suit effectivement ton idée, on est en train de dire que cette discussion entre Antoninus et Rabbi, c'est en réalité une discussion comme si On était en train de refaire le cheminement de la pensée divine, quoi, quasiment. Ici, on veut. Et c'est peut-être le contraire qu'il faut entendre ici, c'est que. En soi, c'est pas du tout intéressant de savoir ce qu'Hachem pensait. Bon, c'est pas important. On n'est pas en train de. Ça n'a pas de sens même. Ce qu'on nous dit de ce qu'était la pensée divine, c'est seulement pour nous. C'est pas, on n'est pas en train de faire la théologie. On n'est pas en train de nous dire quelque chose sur Hachem. On sait bien qu'on peut rien dire sur Hachem. Donc tout ce qui nous est dit là, ça nous concerne, nous. Donc si vous voulez, ce qui est important, c'est ce cheminement qui se fait ici entre Antoninus et Rebbi. Maintenant, il faut zoomer sur... Maintenant qu'on a compris qu'en réalité, pour répondre à la question d'Herschel, qu'est-ce que ça fait ici, quel est l'enjeu? C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est... Le passouk nous dit quelque chose que Vayahol sur Hachem. Hachem... Il a commencé par frapper, et puis ensuite il dit je ne frapperai plus. Ce qui pose évidemment le problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu fais? Tu changes d'avis? C'est toujours le problème de comment est-ce que Hachem peut regretter, etc. Toutes ces histoires qui veulent strictement rien dire comme telles au niveau d'Hachem. Mais ici, mais pour nous, c'est important. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir. C'est en quoi est-ce que c'est important et quelle est la position de Antoninus en fait? Comment se fait-il qu'Antoninus parle directement comme le verset, alors que Rebbi il fait un cheminement en quelque sorte? Il dit sans le verset j'aurais dit autrement, mais maintenant j'entends ce que tu dis, et du coup, je me dis, tiens, c'est ce que dit le verset. Donc, il faut que je me rallie à ça. Mais le verset, il parlait déjà avant. Pourquoi Rebbi ne s'était-il pas inspiré du verset pour répondre à la question? Est-ce qu'il y a une autre possibilité de lire le verset? Pourquoi est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ces questions que Antoninus pose à Rebbi? On a l'impression que Rebbi ne connaît pas les réponses, quoi. Quelque part, il n'a pas réfléchi à la question. C'est Antoninus qui vient et qui lui pose une question et du coup, il y réfléchit. Bon, on voit tout le mal-air, il réfléchit, il envisage une autre idée. Il reconnaît que c'est pas la bonne et il se rallie à l'opinion de Antoninus en disant oui, mais je me rallie à ça parce que le verset le dit comme ça. Donc ça voudrait dire que s'il n'y avait pas le verset, il ne se serait pas rallié à Antoninus. Mais Antoninus il a donné un exemple, il a donné un argument. Il a dit mais si le Yetzer Hara était là dès la conception, l'enfant l'éventrerait sa mère et il sortirait. Elle est. Mais le Yetzer Hara, justement, le problème c'est qu'est-ce que c'est que cette représentation du Yetzer Hara comme. Alors, éventrer sa mère pour sortir. Pourquoi il faut qu'il sorte? Est-ce qu'il éventre sa mère pour sortir ou il éventre sa mère pour éventrer sa mère? Pour faire le mal? Puis bon, alors une fois qu'il l'éventre, il est dehors. Ou est-ce qu'en fait, ce qu'il veut, lui, c'est sortir? Et qu'est-ce que ça veut dire que le Yetzara veut sortir ici? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un enfant voudrait sortir prématurément? Le Yetzirah, hein, tel qu'on le connaît, il est destructeur. Il détruit celui qui le... Parce que si l'enfant sortait prématurément, il en mourrait. Pas simplement qu'il éventrerait sa mère. Mais lui, il mourrait aussi. L'enfant en question. L'enfant porteur de ce Yetzirah. Exceptionnellement, vous avez le droit de parler. Mais il mourrait, il fait, s'il avait effectué Yetzer Hara à l'intérieur du ventre de sa mère, il en mourrait. Voilà, il n'en meurt pas. Qu'est-ce que vous pensez? Ça sur Néron, on dit ça sur Onkelès, on dit ça. Mais ça peut être vrai. On dit en termes de maladie, on sait bien que c'est vrai.
Oui, mais psychologiquement, c'est difficile à celui qui a la conscience de ça. De dire qu'il s'est. Voilà, j'ai eu le sida parce que ma mère, en sortant du ventre, dans le ventre de ma mère, j'ai eu le sida. C'est terrible, je pense, à supporter ça.
Oui, le sida, c'est un moment de sang.
Mais on pourrait comparer.
ça, je ne sais pas si c'est bien de mêler ces deux thèmes. Mais bon, mais est-ce que tu voulais dire sur la sortie de l'arche? Il a bossé comme un fou dans l'arche, hein. D'accord, ça c'est l'or. Je comprends bien que l'arche peut être comparée au ventre de la mer, mais est-ce que qu'est-ce qu'il veut dire? Dans ce cas-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le passouk dit, il y a un Yetzerara maintenant qui n'existait pas dans l'arche et qui maintenant existe. Et c'est du fait même qu'ils sont sortis de l'arche qu'a essayé de faire un. Oui, enfin bon, ça fait une drôle d'idée de la chaîne, là.
Non, mais je dis, ça pourrait être, mais bien sûr, de toute façon, on ne peut pas faire l'image de la chaîne, on ne sait pas qui c'est, mais c'est un. Bon, c'est un peu. J'ai l'impression que c'est une façon d'apprendre ce qu'est la faute. C'est comme un enfant qui va toucher le feu et qui la première fois va se brûler, et après, il ne touchera plus le feu avec les mains.
Oui. Regardez encore une fois le texte. Regardez le texte, regardez dans le texte le verset lui-même. Et qu'est-ce que le texte en dit? On cite le verset, chez Neymar, qui Yetzer lev ha'adam ra minehurav. Rabbi Yudan Amar, minehurav k'tiv, c'est-à-dire, misha'a she'u nin'ar, la tzet mimeimo. Au moment où il se secoue, en quelque sorte, pour sortir du ventre de sa mère. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a une dracha, n'est-ce pas? Pourquoi on a besoin de la dracha? Vous avez tous expliqué Nehourav au sens de quand il sort du ventre de sa mère comme si c'était sa jeunesse. Or c'est une dracha de Rabbi Yudan qui dit que c'est pas Nehourav, c'est effectivement ça veut dire le temps où il est un nahar, où il est déjà né, ça parle de que. Mais le Midrash dit ce n'est que avec la dracha de Rabbi Yudan que Rabbi retrouve le verset dans ce qu'a dit Antoninus. Ben, c'est une dracha. Ninar, ça veut dire se secouer. Donc, c'est pas quand il naît. C'est quand il se secoue, quand, au moment où il va sortir, en quelque sorte. Au moment où commence son travail de sortir. De sortie, pardon. C'est à ce moment-là que le Yetzera vient. Parce qu'à ce moment-là, il ne peut plus rien lui faire, puisqu'il veut déjà sortir. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? S'il avait le Yetzera avant, il sortirait avant. Bon, alors, on peut lui donner, dès qu'il veut sortir, on peut lui donner son Yetzera, puisque le Yetzera va simplement continuer à le... Il va le pousser à sortir, effectivement. Et c'est ce qu'il doit faire. Mais c'est seulement avec la dracha. Ramineurav, tel quel, sans la dracha de Rabbi Yudan, le verset ne va pas dans le sens d'Antoninus. Il parlerait de la jeunesse, mais pas obligatoirement dès la naissance. Or, Antoninus dit que c'est dès la naissance qu'il y a le Yetzirah. C'est-à-dire, au fond, lorsque l'hormone déclenche l'accouchement, cette hormone-là, elle déclenche quasiment le Yetzirah aussi. Pardon? Et cette hormone, elle permet la naissance, et on pourrait presque se demander si la naissance, elle ne se fait pas aussi grâce à cette énergie du Yetzirah. Le Yetzirah, c'est quelque chose qui, d'après Antoninus, ferait en sorte que la naissance se fasse prématurément, mais le Yetzirah, il va naître. Il veut naître. Alors, qu'est-ce que c'est naître ici? Alors, premièrement, on voit, par rapport à la question qu'on avait posée, c'est que le verset n'est pas du tout à l'évidence comme Antoninus le dit. Il faut le travail de Rav Yudan pour faire apparaître le verset comme Antoninus le dit.
Rabbi, c'est avant.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est-à-dire que
Antoninus,
lui,
il
dit c'est après.
Oui, mais lui, il dit dès la conception. Rabbi dit dès la conception, voilà. Et Antoninus dit non, c'est seulement à la sortie. Pas à la conception, dans les neuf, c'est... au neuvième mois, si tu veux.
D'accord. Enfin, moi, il me semblait que c'était le débat, est-ce que c'est la société qui le rend mauvais,
non,
ou non. Il est intrinsèquement mauvais.
Non, non. C'est pas un problème de Rousseau.
Certainement pas. C'est pas ça qui me séduit ici. Parce que après, soit on dit bon après c'est la seconde de son vivant, soit après c'est l'éducation, c'est la société.
Et si vous n'avez pas le rachat de Abidjan face à la jeunesse, ça devrait dire tard. On va pas dire avant.
Et je sais pas là.
Non, mais Rabbi, Antoninus aussi s'appuie pas sur le verset. Antoninus lui a demandé quand est-ce que l'homme, quand le Yetzara est donné dans l'homme, littéralement, Natun ba'adam, Mishayatsa mimeimo, après qu'il soit sorti du ventre de sa mère, donc au moment de la sortie, oh, Achelo yatsa mimeimo, avant qu'il ne sorte. C'est-à-dire, les commentateurs disent au moment de la conception. Dans les 40 jours, là, quand il vient, le Shama et tout, là, le Yetzirah viendrait. Amarlo, Hachelo Yatsa Mimeimo. Alors Rebbi a répondu avant, au moment de la conception. Mais pourquoi Rebbi a répondu comme ça? Qu'est-ce qui a poussé Rebbi à répondre comme ça? Est-ce qu'on a un argument pour expliquer pourquoi Rebbi a répondu ce qu'il a répondu? Pardon? On avait dit qu'effectivement, il y avait Yaakov et Esav qui, dans le ventre, manifestaient déjà une volonté de sortir. Enfin, il y avait déjà du Yetzirah, quoi, quelque part. Ouais, bah c'est une magnification de la personnalité de la mère.
Oui, mais de la mère avec une relation. Avec une relation qui s'amplifie.
Oui, bon, il y a une relation, mais.
C'est compliqué de jour en jour.
C'est juste, c'est ok. D'accord. Mais qu'est-ce qui le pousse à dire ça? Il y a un Yetzer Hara. La Gemara, elle dit que après la destruction du premier Beth Amikdash, les Chachamim se sont tournés vers Hachem et ils ont dit on est obligé de faire un constat d'échec. On n'arrive pas avec la Avodah Zarah. On n'y arrive pas. Le Yetzirah de la Avodah Zarah est beaucoup trop. Il est beaucoup trop fort, on n'y arrive pas. Alors ils ont prié pour qu'Hachem supprime la virulence du Yetzer Hara d'Avodah Zarah. Pour que l'Avodah Zarah ne soit plus quelque chose de, si vous voulez, un must. À ce moment-là, c'était comme être moderne, c'était un must. C'était pas pensable autrement, c'est ce que Menaché a expliqué à Ravashi. Si tu avais vécu de mon temps, ou enfin en même temps que moi, tu aurais relevé les pans de ton manteau pour courir plus vite à la Avodah Zarah. Alors les Chachamim ont prié, ils ont obtenu la suppression de la virulence du Yetzer Hara d'Avodah Zarah. Ça voulait évidemment dire que le chemin qui passait par la solution du problème que posait la Avodah Zarah, ce chemin-là n'était plus praticable. Il fallait prendre un autre chemin pour avancer. Il pouvait par exemple être un chemin beaucoup plus long ou avec d'autres problèmes, évidemment. C'est pas que ce problème-là, on l'enlève et puis on continue comme si de rien n'était. C'était un autre choix de société, en quelque sorte. Un autre choix dans l'ensemble des problèmes, on choisit d'autres problèmes. C'est comme si on va se confronter à autre chose. Il n'est pas dit, je connais pas. On n'a pas dit par quoi on a remplacé le Yetzer Hara d'Avodah Zarah au sens qu'est-ce qui est devenu le grand problème et qui est si on arrive à le vaincre, alors on arrivera au même résultat que si on avait vaincu le problème d'Avodah Zarah. Peut-être que c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je ne sais pas. Alors quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais alors, bon, si on en a le pouvoir, demandons la suppression totale de la virulence du Yetzer Hara. Demandons l'annulation du Yetzer Hara dans le monde. Hachem m'a dit, vous demandez, ok, je vous le donne. Ok, on supprime le Yetzer Hara, et comme tout le monde sait, le lendemain, il n'y avait plus une poule qui pondait un œuf. C'est là tout le fonctionnement de la nature, donc toutes les conceptions, tous ces processus-là, ils nécessitent le Yetzer Hara. Et donc, puisqu'on parle d'un processus de conception et de naissance, etc., et de développement, toute l'épigénèse et tout ce qu'il y a, etc., alors il faut le Yetzer Hara pour ça. Et donc, Rebbi, quand on lui demande quand est-ce qu'il y a le Yetzer Hara, il dit, bien évidemment, Le Yetzara, il est là depuis le début, parce qu'il est absolument nécessaire. Il est incontournable. C'est vrai qu'il a des côtés négatifs, mais il a aussi des côtés positifs. Le Yetzara est une pulsion, ou je ne sais pas, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Alors, il a des aspects qu'on n'arrive pas à gérer. Visiblement, les Chachamim de l'époque, ils ont décidé qu'on n'était plus capable, qu'il fallait régler le problème autrement. Ce problème du Yetzer Hara spécifique de l'idolâtrie, celui-là, on n'était pas capable d'en venir à bout. Ok, bon, on n'y arrive pas. Alors, ils ont demandé, ils ont mis les pouces, quoi, quelque part, on va faire autre chose. Alors, c'est bien que Rebbi ait répondu, bien sûr, le Yetzer Hara, il doit être là depuis le début. Parce que s'il n'était pas là depuis le début, il n'y aurait aucun... Ça n'avancerait pas, l'enfant, l'enfant de sa mère ne se développerait pas. Alors Rebbi répond comme ça. Et maintenant, Antoninus lui dit non, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que justement, il y a ce côté destructeur du Yetzirah. Le Yetzirah, il est appelé dans plusieurs endroits, il est appelé El Nechar, un dieu étranger en nous. Le dieu étranger, c'est cette notion de... Le El, c'est ce qui me guide. C'est ce qui nous guide, oui. C'est comme le bélier qui marche en tête du troupeau, quoi, qui guide tous les moutons. Nechar, ça veut dire étranger. C'est Nochri. Ceux qui font la bracha, Shelo Asani, ceux qui disent Goy, je sais pas, il y en a qui disent Nochri. Le matin, c'est ça. Nochri, Nechar, c'est étranger. Mais c'est un radicalement étranger. On a vu dans l'Ilchot, dans la Halachot de Ribbit, dans le Passouk, on a toutes sortes d'étrangers. Nechar, c'est le radicalement étranger. El Nechar, ça veut dire tu as un dieu étranger, quelque chose qui n'est... qui t'est réellement étranger et qui est en nous. Alors, Antoninus dit, mais ce truc-là, il est tellement étranger qu'il ne peut pas rester en nous, il nous est totalement étranger, donc il va sortir. Pourquoi il veut sortir ? Parce qu'il est étranger complètement. Et c'est un étranger total, c'est-à-dire que le totalement étranger, il peut avoir toutes les cruautés du monde. Et c'est l'arzariut, la cruauté, ça se dit arzar. Volbe, il donnait toujours cette pseudo-étymologie de, il est uniquement étranger. Ar, uniquement, zar, étranger. Mais là, c'est encore un zar relativement cool. Nochri, c'est plus radical encore. Alors, à cause de ça, hein, ce Yetzirah, si, dit Antoninus, le côté négatif, le côté Elzar qu'il y a dans le Yetzirah, il va sortir. Il fera qu'il va tuer. Il va tuer la mère. Ou il va se tuer lui-même. Il va tuer l'enfant donc, dans lequel il est. Et donc on ne peut pas penser qu'il soit à l'intérieur. Dès le départ. Alors, maintenant, Rebbi, qui pensait autrement, tout à coup Rebbi se rallie à l'opinion d'Antoninus. Bon, il peut se rallier à son opinion. Mais d'un autre côté, est-ce que Rebbi ne savait pas qu'il y avait aussi un côté Elzar dans le Yetzara ? On sait bien que Yetzara, il a deux composantes, en fait. Ce que tu appelais un Yetzara qu'on maîtrise et qu'on ne maîtrise pas. Il y a deux composantes. Il y a la composante nécessaire à la vie, et puis il y a la composante qui est littéralement contre la vie elle-même. C'est quelque chose qui... Il veut ce qu'il veut, et, y compris en détruisant tout. L'Elzar, c'est un complètement étranger. À la limite, on est guidé par quelque chose qui n'assure pas du tout. Comme si on n'avait plus de... Comme si on n'a plus d'instinct de vie, d'instinct de survie, quoi. Quelque part, n'importe quoi. C'est comme des gens qui perdent complètement la tête et qui, effectivement, se suicident. C'est n'importe quoi. Alors bon, mais maintenant il se rallie à... T'as raison. Tu as raison. Et d'ailleurs, le verset dit comme tu dis. Le verset, il dit rien du tout. Le verset, il ne dit comme tu dis que si on fait la dracha de Rabbi Yudan. Rabbi Yudan, il fait une dracha, Yetzer, Leva, Adam, Ra, Mine, ou Rav. À partir du moment où on se secoue pour sortir. Mais on peut aussi lire Mine, ou Rav, quand il se secoue, ça peut être aussi le commencement de la vie, quoi. Bon, si Neurav, ça veut dire c'est ce mouvement de cette secousse, quoi. Mais est-ce que c'est pas la secousse du moment où la vie s'installe? Non. Donc, quelque part, est-ce qu'on pourrait aller dans le sens de ce que tu disais? C'est que, bon, on peut dire comme tu dis, c'est une vision extérieure. Mais elle ne rend pas compte de la réalité telle que je la connais. C'est comme si Rabbi ne nous disait pas. Mais dans la discussion avec Antoninus, il faudrait savoir, est-ce que Rabbi dit ce qu'il pense? Ou est-ce que, bon, si tu le dis comme ça, tu as cet argument-là? Bon, ben, finalement, Antoninus, qu'est-ce qu'il fait de l'argument qui est à la base de ce que Rabbi a dit? À savoir, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'Yetzer Hara. Comment est-ce que lui, il comprend que ça se développe, que le fœtus, le embryon, le fœtus se développe s'il n'y a pas d'Yetzer Hara? Qu'est-ce qui va faire qu'il se développe? Il ne se pose pas la question. Alors c'est possible que Rémi, effectivement, Rabbi pense peut-être il pense comme Yosef Gaver, c'est tout. Il pense que Antoninus, s'il comprend les choses comme il les comprend, il a une vue superficielle des choses, et on n'est pas obligé de se battre pour si tu penses comme ça. Alors on peut te laisser penser comme ça. Mais si c'est comme ça, si on pense comme ça, si on lit comme ça, alors est-ce qu'on arrivera à faire le lien? Parce que finalement, ce que je voudrais, c'est faire ce lien avec ce qu'on nous dit d'Hachem, parce que sinon, on va rester avec la question d'Herschel. Quel est le lien entre cette histoire d'Antoninus et puis on nous dit d'Hachem? C'est Hachem qui dit Yetzer Lev Adam Ineurav. Qu'est-ce qu'Hachem voulait dire? Qu'est-ce que nous on doit apprendre en quelque sorte? Est-ce que, puisque c'est un pasouk, c'est une parole divine, Yetzer Lev Adam Ineurav, alors est-ce que c'est pas le propre de toute parole divine de pouvoir s'entendre de plusieurs manières? La richesse. Pas l'ambiguïté, la richesse. Donc, ça s'entend de plusieurs manières. Et une manière plus profonde et une manière plus superficielle. Alors, les deux sont possibles. Mais c'est peut-être pas encore complètement satisfaisant, parce qu'on pourrait, on peut dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut entendre dans la parole d'Hachem? Quand Hachem dit « Je n'enverrai plus de déluge parce que Yetzer Lev Adam ramine au Rav. »
C'est une annonce de dire « La Tchouva est possible. » Parce que sinon, je sais que c'est en vous, et donc et je ne vais pas détruire.
Alors, il faut que vous sachiez que la tchouva, elle a été créée avant le monde. Et par conséquent, le monde est créé dans un, si vous voulez, dans le berceau de la tchouva. Donc, c'est pas cher de dire je laisse pas la tchouva. C'est toujours possible la tchouva. Sans tchouva. Seulement, ce qui se passe, si vous voulez, c'est. Il y a c'est essentiellement un Zohar que On dit qu'Hachem bara olamot v'hirchivan. Hachem a créé des mondes et il les a détruits. Alors, en soi, c'est pas très intéressant. Je veux dire, ça intéresse peut-être les spécialistes, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem a créé des mondes et les a détruits? Alors, peut-être que je vous ai déjà dit que il me semble qu'on peut l'entendre de la manière suivante. Justement par rapport à la destruction du monde version Maboul, c'est que ce que disent ici Chazal, c'est le Maboul, il s'inscrit dans une chaîne. Il y a une chaîne, j'ai déjà raconté ça à Malka, je crois. Il y a une chaîne. Hachem a créé des mondes, ils n'étaient pas satisfaisants, il les a détruits. Et puis il faut qu'on... Encore une fois, ça n'a aucun... Il ne faut pas du tout entendre que Hachem... pourquoi Hachem crée des choses imparfaites et puis ensuite il les détruit comme si il ne savait pas d'emblée que ça serait... Mais il faut qu'on comprenne, qu'on entende le Maboul de cette manière-là justement. Le Maboul, c'est le commencement, ou c'est un nouveau chaînon dans lequel il n'y a pas de destruction totale. La destruction n'est que partielle. Il reste un peu du monde et il reste une famille. Il reste la famille de Noir. Et avec cette famille-là, le monde va se reconstruire. Et puis par la suite, Hachem dit, ok, alors, ça continue. Maintenant, le Maboul, il n'y en aura plus. Mais il y aura quand même des destructions partielles. Il va y avoir des destructions. Il y aura des destructions locales. Il y aura la tour de Babel, où l'humanité est détruite, disons, dans la forme qu'elle avait prise. Bon, l'humanité s'était unifiée, ils étaient là tous quasiment en train de faire quelque chose, presque la réussite du monde, sauf que c'était tourné du mauvais côté, mais c'est ce vers quoi on ce à quoi on aspire. Le levav shalem n'y était pas et la sotra tzoncha non plus. Mais l'unité, elle était faite. L'unité de l'humanité était faite. C'est cette unité qu'on demande à Hachem, à Rosh Hashanah et Kippour. C'est dans la fila Rosh Hashanah et Kippour. Yasukulam aguda achat. Seulement, nous, on veut que ce soit fait pour le bien. Elle a commencé par exister, cette unité, mais pour le mal, pour se révolter contre Hachem. Et à ce moment-là, cette humanité-là, elle a été détruite, complètement dispersée. Ensuite, il y a des destructions plus partielles. Il y a Sdom qui est détruite. Il y a l'Égypte qui est quasiment détruite par Makot. Puis après, l'humanité, elle continue dans le clan Israël. Le clan Israël aussi, il a des destructions successives. Il y a la destruction du premier Beth Amikdash, le premier monde, le deuxième Beth Amikdash. Il y a eu encore récemment une destruction d'une grande partie du clan Israël, il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire qu'il y a, ce que Chazal dit, je pense, c'est qu'il y a un processus, d'accord, où la destruction est de plus en plus petite au sens de... Il y a nécessité de certaines destructions pour des raisons qui nous dépassent, peut-être parce qu'il y a l'évadam ramineurav, ça veut dire il y a un élément irréductible de Yetzirah qui est nécessaire à la fois pour la vie mais qui est en réalité aussi une forme de mort, comme si la vie n'était possible que si il y a eu des éléments de mort. Parce que, si vous voulez, la dernière mitzvah d'Ebné Noach, elle a été donnée à Noach au sortir de l'arche. Donc, quelque part, elle est consécutive à la destruction du monde. Donc, si vous voulez, l'ensemble des sept mitzvot d'Ebné Noach n'existe sous cette forme-là, sous la forme définitive, en quelque sorte, pour les Bnei Noach, que, je ne dirais pas grâce, mais que suite à la destruction Maboul. Et on a toujours ce système, n'est-ce pas, de divergence-convergence, c'est un truc qui est fondamental, disons, dans tout le progrès. C'est-à-dire, ça s'écarte, puis ensuite, ça se reconcentre. C'est comme ça que ça fonctionne. Adam Arishon, ça fait deux. Sans arrêt, il y a ce processus d'expansion-contraction qui fait avancer en quelque sorte le monde. Et cette contraction, elle se fait en général sous forme d'une destruction. Oui, parce que ça va de pair avec la nouvelle version, enfin la version actuelle de la vie, elle va de pair avec la mort. C'est-à-dire, il y a tout un travail de mort nécessaire pour que la vie ait lieu. Parce que pourquoi je ne vais pas vous dire, je ne sais pas pourquoi il doit y avoir la mort des cellules pour que d'autres cellules naissent et se développent, etc. Pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien. Mais c'est l'état des choses. Pardon ? Oui, mais je ne dis pas que ce n'est pas une question, mais je ne sais pas y répondre. Patrimoine génétique. Justement, quand il commence, il n'a pas encore de mitzvot. Les mitzvot, il n'en a pas avant d'avoir mitzvah.
Oui, il a décidé déjà d'être en vie et dans le monde. Il faut déjà par les parents, tout ça, parce que c'est les parents qui portent une mitzvot pour lui. D'une certaine manière, on peut dire comme ça. Mais, enfin, je veux dire, il y a la possibilité de se défendre contre le Yézra. Dans le ventre de la mère, il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, est-ce que.
Mais il n'y a pas de bien au départ. Il n'y a pas de Yetzeratov au départ.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de Yetzeratov. Mais il y a quand même là. Et dans cet âme, cette âme, elle porte en elle quand même tout.
Oui, bon, mais c'est, même si quand tu dis c'est porte en elle, donc d'ailleurs, tu fais référence à quelque chose qui serait potentiel.
Oui, mais quand tu as dit que le Yetzer Hara est déjà dedans, il ne le dit sûrement pas
pas du tout, il le dit, mais j'ai expliqué pourquoi il le disait. Il le dit parce que sinon il n'y a pas de principe de vie. On a besoin de ça pour la vie. Et c'est ça qui est fondamental, en fait.
Voilà, mais moi ce que je veux dire, c'est que je pensais qu'il y avait un état en fonction de chaque
personne. Et ça va venir. C'est déjà, si tu veux, c'est plus sophistiqué déjà. Je veux savoir, est-ce que l'Yetzara, y compris celui de chacun, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Alors, Rebbe, il donne une bonne réponse, seulement il ne la justifie pas. Alors, Antoninus lui dit, mais j'ai une objection. Non. D'accord, j'ai une objection. À cette objection, Rebbe ne répond pas. Il dit, oui, bon, d'après ça, on doit. L'objection est suffisamment forte. Je me rallie à toi. D'ailleurs, on trouve ça dans le verset, dans la dracha que fait Rabbi Yudan du verset. Mais quand tu fais la dracha de ce verset, tu peux aussi obtenir ce que Rabbi a dit. Dans une version plus intériorisée, quoi, en fait, de ce que Rabbi a dit. Et peut-être que Rabbi, effectivement, il ne veut pas le. Comme on a dit, Rabbi, il ne veut pas discuter plus avant avec Antoninus. Il ne veut pas lui donner l'intériorité des choses. Mais, alors maintenant. Si, pour en terminer, qu'est-ce que le verset nous dit, étant donné qu'il est parole d'Hachem? Ben justement, parce qu'il est parole d'Hachem, alors il a c'est toute cette richesse qui veut dire à la fois ce que dit Antoninus et à la fois ce que dit Rémi. C'est les deux choses. Simplement, l'un, c'est une certaine lecture, une lecture plus en profondeur. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit nous le dire qu'Hachem dit ça, en fait? En quoi est-ce que c'est important pour nous de savoir qu'Hachem a énoncé ce. Il a dit cela. Hachem nous dévoile quelque chose avec ce verset-là. Il dévoile quelque chose et la Torah nous dévoile justement la chose. Grâce à cette mise en scène où c'est Hachem qui le dit, qui dit voilà, quel est le lien avec cette histoire? Je ne vais plus envoyer de l'éluge parce que. Comment est-ce qu'elle fonctionne la causalité ici? Rien n'a changé de ce point de vue-là. L'homme a toujours eu un Yetzara, lève, ramino, rav, et néanmoins, comme on a dit, Hachem. L'a sanctionné. Oui, mais pourquoi il l'a sanctionné alors? Oui, mais alors qu'est-ce que. D'accord, le monde mérite d'être détruit, alors c'est extrêmement pessimiste, ça veut dire que. En fait, on est toujours largement inférieur à ce qu'il faudrait. Mais ça, Hachem nous a envoyé un signal sur quand il devrait être détruit, ça c'est le fameux arc-en-ciel. Hachem dit lorsque, en fait, vous avez dépassé la mesure. Alors j'enverrai un signe qui vous. C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il dit, ça y est, ici vous avez dépassé la mesure. Normalement, si je n'avais pas une alliance avec vous, j'aurais détruit le monde. Comme si on a besoin de temps en temps de rappel à l'ordre, en fait. À condition de bien vouloir les lire, c'est rappel à l'ordre. Alors, du coup, bon, ça rappelle déjà que. Il y a des conduites qui mériteraient que le monde soit détruit. Il y a une espèce de disqualification. Et finalement, Hachem ne détruit pas seulement parce qu'il a fait la promesse de ne pas détruire. Mais comme tu dis, effectivement, le monde mériterait d'être détruit ici. enfin, disons, pour juste un petit peu compléter ce que j'avais dit précédemment, peut-être qu'il faut, il faut ajouter que qu'Hachem ait effectivement fait une destruction de ce monde-ci avec une destruction qui n'est pas totale, avec un témoin de la destruction quelque part, qui est Noach et sa famille. C'est une, c'est d'une une façon de nous de dire que c'est réel cette idée que le monde mériterait d'être détruit. Parce que si on avait seulement cette idée, je vous enverrai un signe quand le monde devrait être détruit, mais il ne le sera pas. Mais que si on n'a jamais expérimenté en quelque sorte cette destruction du monde, parce que ce que Razal dit, que Hachem a créé des mondes et il les a détruits, ben personne n'en est témoin. Il n'y a pas d'homme qui ait vécu cela. Tandis que la destruction, il y a un homme qui est. Il y a des hommes qui l'ont vécu. Et donc, quelque part, ça donne plus de crédit, évidemment, mais ça montre que la chose est sérieuse. C'est-à-dire que ce n'est pas une idée. Il y a une réalité de destruction du monde. C'est-à-dire, c'est cette réalité, justement, que le Yetzer Hara, il détruit le monde. Le Yetzer, la dimension destruction du monde, c'est celle que met en avant de nouveau Antoninus. Antoninus, il dit, mais si tu mets le Yetzer Hara, il va détruire le monde. Alors Hachem, en quelque sorte, dit, oui, enfin, avec le Chazal qui nous dit qu'il a déjà détruit les mondes, oui, c'est vrai, le Yetzer Hara a déjà détruit les mondes. Il a détruit les mondes, mais comme il y a quelque chose de positif aussi, d'accord, alors maintenant je vais faire en sorte de ne pas laisser le monde se détruire. Et à la limite, le fait que le Yetzara, dans la version de Rebbi, que le Yetzara soit là dès le départ, à un certain niveau, mais que extérieurement, on doit dire il n'est pas là, comme Antoninus. D'accord. Parce que c'est au fond, il se joue dans chaque homme cette non-destruction du monde qui s'est jouée, non-destruction totale du monde, et la promesse que le monde ne sera plus détruit, même de façon partielle, tout entier, et ça se joue dans chaque homme, dans chaque naissance. À chaque conception et naissance, le fait que le Yetzara n'arrive pas à détruire complètement la personne, bien qu'en réalité il est là, il est comme Rebbe l'a dit, il est déjà là, le Yetzara. Seulement quand on regarde de l'extérieur, c'est comme s'il n'était pas là, parce que s'il était vraiment là, comme dit Antoninus, il détruirait. Et au fond, c'est ça l'idée, le monde, comme vous avez dit, le monde devrait être détruit. Intérieurement, il est peut-être déjà détruit d'ailleurs. Mais on ne le détruit pas tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut être déjà détruit ? Ça revient à ce que le Maharal dit sur les peines de mort. Le Maharal dit, quand quelqu'un est condamné à mort, c'est qu'il était déjà mort spirituellement. Il a fait des avérotes qui font que, il a fait des fautes qui font qu'il est mort spirituellement. Alors maintenant, on le condamne à mort. Alors bien, la mort est complètement académique et mais il est condamné à mort. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà mort, en fait. C'est cette même idée. C'est-à-dire qu'en fait, il est mort, il ne le sait pas. Et maintenant, on va même s'arranger. La Torah s'arrange pour qu'elle mette de telles conditions pour pouvoir effectivement condamner quelqu'un à mort, que ce n'est jamais réalisé. Mais néanmoins, néanmoins, dans la Torah, il est marqué, quand tu te conduis de cette manière-là, tu mérites la mort. Ça veut dire, je te dis, tu es spirituellement mort. Si on n'empêchait pas les Yetzirah de te détruire complètement, il t'aurait détruit, parce que qu'est-ce qui nous détruit, effectivement ? C'est les Yetzirah qui nous détruit en faisant faire des fautes. C'est marqué dans Chazal que les Yetzirah, il descend, il nous séduit, il nous fait faire la faute, et il remonte témoigner contre nous qu'on a fait la faute. ça le processus. Vous comprenez? Donc c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire intérieurement, le Yetzirah est là en tant que force de vie, en tant que nécessité qui passe par une forme de mort, et, etc., mais limitée de telle sorte que la vie puisse fonctionner. Extérieurement, il n'est pas là. Extérieurement, il n'est pas là parce que sinon, il détruirait. Sinon, c'est la peine de mort, quoi, quelque part. La peine de mort, on ne la donne pas. Donc, il n'y a pas la peine de mort. Tu peux, mais spirituellement, on est mort. Je vous avais déjà raconté plusieurs fois, on dit ça de presque Lamenstein, qui était l'ancien Mashgiach de l'Yeshiva de Ponevitch, il disait, au moment des Louls, il dit, oh, toutes les années, on nous raconte que on joue, il y va de notre vie, etc., Rosh Hashanah, Yom Kippour, on prie pour la vie, etc. Mais on pourrait tenter de se dire, bon, l'année dernière, je n'étais pas beaucoup mieux que cette année, puis j'ai vécu quand même, je suis vivant, donc... Alors, Kraske disait, mais qui te dit que tu es vivant? Ils sont morts. Il y a des gens qui sont complètement morts. Il n'y a plus assez de... Il n'y a plus de ressort, quoi. On vous a coupé la parole. C'est la tchouva de qui?
En général, je dis. Pourquoi je dis en général? Parce que c'est par rapport à ce qu'on compare le Yetzirah Hara avec le Narchash, avec Adam et Arishon, bon, il fait un peu le même fonctionnement que le Yetzirah Hara, dans le sens où il doit vivre au soleil, etc. Voilà. Donc il a un peu la même chose, mais il n'y a pas de possibilité de tchouva de la Arishon.
Oui, enfin, il va faire tchouva. Il va rencontrer Caïn. Il va rencontrer Caïn, il va dire, ah, t'es vivant encore toi, c'est surprenant. Donc, visiblement, il n'y a pas beaucoup de communication entre eux. Et il dit, mais comment t'as fait pour être encore vivant avec ce que t'as fait? Il a dit, j'ai fait tchouva. Oh, on peut faire tchouva. Voilà, je vais faire tchouva aussi. Et il a fait tchouva. Il a appris de Caïn. Caïn, c'est un modèle. Il a enseigné le korban, il a enseigné la tchouva. Un grand bonhomme, Caïn. Je fais de la pub. Non, mais c'est bien. C'est le Yetzirah al-Nachash. C'est le Yetzirah extérieur. Oui. Pas évident. Bien, on va rester là.
Par rapport à la notion de l'équilibre, voilà, avec le Yetzirah Hara, de vivre en équilibre avec le Yetzirah Hara, il y a un économiste qui a introduit le concept de destruction créatrice, de Hayek, et qui dit que, par exemple, les crises.
Oui, c'est ça que j'ai pensé, hein. je voulais pas me lancer là-dedans, mais tu peux dire.
Oui. Donc, en fait, il peut y avoir un bon côté dans les crises, c'est-à-dire que le surplus, les excès, qui a le trop gras, les plus mauvais sont détruits. Et à partir de cette destruction-là, on peut recommencer quelque chose de plus sain.
La question de savoir, est-ce que l'Eman est plus mauvais que la BNP.
Il y a des, et les autres ont des erreurs.
Est-ce que je peux dire une chose, parce qu'il y a peut-être pas l'important d'occuper et étudier le problème de la gestation de la petite qui peut avoir de l'armée. On s'est aperçu que en fait les naissances étaient toujours du double. Il y avait aucun autre fils naître. Il y avait des jumeaux. Le celui qui restait, celui qui disparaissait, c'était le jumeau papyrus. Ça se transformait, c'est vrai, ça se transforme comme un papyrus. Il est détruit, il en reste un seul, c'est celui qui va. Et pour qu'il y ait la vie, d'une certaine façon, parce qu'on ne perçoit pas toujours chez une femme, mais pareil, c'est un processus qui arrive chez toute femme, c'est qu'il y a toujours un fœtus qui est détruit pour que l'autre puisse vivre. J'avais écrit un article sur cela, sur les jumeaux papiers, où j'appelle ça les jumeaux papiers, où j'appelais ça le bouclier de papier, en fait, parce qu'il y avait une espèce de papier qui ne sait pas comment il était pas.
Oui.
Et j'ai développé ça à travers les dessins que faisaient les jumeaux. Les jumeaux et
les vrais jumeaux, les pas les.
Comment ils faisaient les dessins de côté, lequel passait. Alors j'ai écrit tout un truc là-dessus. C'est vrai qu'il y a une destruction au départ.
Pour que ça puisse marcher.
Oui, que ça puisse marcher. On s'est posé des questions sur les fausses couches, sur tous ces problèmes qui se sont on avait demandé de faire depuis un stage. Est-ce qu'il y a des problèmes? On est observé des femmes qui ne s'expliquaient pas pour quelle raison.